toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Connaissiez-vous à 25 ans la personne que vous êtes devenu adulte ? Aviez-vous un chemin de vie déjà tout tracé, une feuille de route, ou étiez-vous plutôt comme une feuille dans le vent ? Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Retour à Séoul nous fait cheminer sur presque 10 ans en compagnie d'une jeune femme qui se cherche une identité, une jeune Française qui se retrouve par hasard, pense-t-elle, à Séoul en Corée du Sud, son pays de naissance dans lequel elle a vécu quelques mois avant d'être adoptée. Mais à quoi ressemble un retour au pays natal quand on ne l'a jamais vraiment connu ? Le vertige du retour aux origines va la déboussoler et le film, comme son personnage, échappe lui aussi à toute assignation. Bonjour Davy Chou.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de Retour à Séoul qui sort en salle mercredi prochain en France et représente le Cambodge dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. À l'affiche de notre cinéma également cette semaine, Le Journal du Cinéma que nous présentera Isabelle dans une trentaine de minutes. Une interview d'Alain Huguetto pour le film d'animation Interdit aux chiens et aux Italiens. Et puis un reportage au Maroc pour un film sur les origines de la musique berbère.
Tu ne connais vraiment rien de la Corée ?
Non, rien.
How long do you want to stay ?
I don't know yet, but 3 nights.
I need your passport, please. Mais vous êtes française ?
France 사람 같진 않은데.
아, 그게 무슨 상관이야. 자, 우리 만났으니까 짜나봐.
C'est que je suis arrivée en Corée un peu par surprise.
C'est ta mère ?
Biologique, je pense, ouais.
Tu vas essayer de retrouver tes parents ? Pourquoi non ?
Mais je suis française.
Aussi un peu coréenne.
Un extrait de la bande-annonce de Retour à Séoul, Davy Chou. Hein, c'est votre deuxième long métrage de fiction. Il avait été sélectionné à Cannes cette année dans la section Un certain regard. Alors on l'entend un peu dans cet extrait. L'héroïne du film, Freddy, n'avait pas l'idée avant de se retrouver à Séoul de partir à la recherche de ses parents biologiques. Alors, c'est possible ça ? C'est comme une sorte d'acte manqué ?
Ouais, elle décide ça sur un coup de tête. En tout cas, c'est ce qu'elle dit et peut-être ce dont elle se convainc. Est-ce que parfois il y a quelque chose de l'acte manqué parce que, est-ce que parfois il y a un peu de déni de soi, de ses propres décisions ? C'est possible. En tout cas, moi, ça me parle parce que je crois que c'est parfois quand on s'y attend pas qu'on fait les choses les plus importantes et les plus décisives de sa vie. Et aussi quand on a longtemps refusé d'ouvrir une porte, qu'à un moment, quand on l'ouvre, on la défonce. Et que les conséquences en sont d'autant plus grandes, quoi. Donc, ouais.
Cette rencontre de votre héroïne Freddy avec son pays d'origine, c'est vraiment le choc des émotions et aussi le choc des cultures.
Oui, complètement. Ça veut dire, c'est comme vous le disiez avant, quelqu'un qui débarque dans un pays dont il est censé venir et dont il connaît absolument rien. Et donc, du coup, ce frottement, cette espèce de paradoxe est hyper étrange et peut paraître aussi hyper brutal. Alors le personnage de Freddy, au départ, en tout cas en apparence, l'approche de façon gourmande, on le voit, elle arrive à la guest house, elle rencontre cette jeune fille qui devient un peu sa meilleure amie tout de suite, comme dans un conte de fées, comme une espèce de crush amical et comme si elle voulait un peu tout prendre et tout voir de la Corée du Sud, comme elle le dit. Et en même temps, de fil en aiguille, les choses vont être un peu plus complexes que ça.
Effectivement, alors Freddy, elle surprend en fait dès le début. Elle est dans un petit restaurant avec justement donc cette nouvelle meilleure amie, la réceptionniste de l'hôtel, un ami à elle. Et alors, est-ce que c'est parce qu'à un moment la conversation prend un tour plus intime quand justement les deux convives apprennent qu'elle a été adoptée bébé, oui, et lui demandent ah bah c'était là pour ça, il faut que tu partes à la recherche de tes parents biologiques. Enfin, toujours est-il qu'il y a une rupture de ton. Qu'elle va s'installer à une autre tablée avec des jeunes hommes et qu'elle commence à vouloir rassembler les clients du restaurant.
Ouais, elle se transforme presque en espèce de démiurge qui va tout d'un coup devenir la maîtresse de cérémonie et la metteur en scène de la soirée. Oui, il y a plusieurs choses dedans. La première, c'est ce personnage déjà de montrer son mode de pensée, sa façon de réagir aux choses, où à chaque fois qu'elle se sent un peu pressurisée, acculée à chaque fois que, et ça lui arrive souvent, et je pense que ça arrive souvent à ce genre de personne, elle a l'impression que les gens veulent définir qui elle est, mettre des étiquettes, l'enfermer dans des catégories, notamment des catégories identitaires. Elle fait un geste qui est à la fois de la fuite, de la confrontation, et elle renverse la table. Et elle amène du chaos pour prendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans les comportements de personnes que j'ai pu connaître, et c'est à la fois surprenant, parfois dérangeant, mais il y a quelque chose de très vitaliste, il y a quelque chose aussi de très provocateur, et la provocation qu'engendre ce genre d'action est aussi très fertile, j'allais dire pour la fiction, mais même en dehors du film, dans la vie, de qu'est-ce que ça provoque en fait, et l'imprévu que ça provoque, et les choses que ça produise. Et je rajouterais aussi que, pour moi, Retour à Séoul, pour bien des aspects, a été écrit et pensé un peu en résistance au récit classique de ce genre de récit de retour aux origines avec un personnage qui va retourner dans le pays et la terre natale où on a l'impression que on imagine sur la base du pitch qu'on voit à peu près le film, ça va être un personnage, notamment cette jeune fille délicate qui va faire une introspection progressive et sentimentale à l'intérieur de ce pays, se réconcilier avec ses différentes entités, ses différentes cultures. Et moi, je me suis toujours trouvé en tant que spectateur un peu en porte-à-faux par rapport à ça, ou alors au moins un peu frustré en ayant l'impression que l'expérience de la vie, la mienne, d'avoir été ces 10 dernières années un peu partagée entre le Cambodge et la France, celle des gens que j'ai pu rencontrer, notamment qui ont vécu une expérience d'adoption, est tellement différente, tellement plus complexe, tellement plus brutale aussi. Et cette brutalité, cette espèce de sécheresse parfois des situations, je voulais le mettre dans le film. Et cette personnalité de Freddy, elle me permet justement de bousculer, comme vous dites, le récit classique du récit des origines, vers les origines, pour un peu nous amener dans un ailleurs un peu surprenant. Et j'espère que le spectateur va être prêt à la suivre et à se jeter un peu dans l'inconnu comme elle.
Alors, le personnage de Freddy est interprété par une actrice qui s'appelle Park Jin-min. C'est une artiste plasticienne, avant d'être peut-être une actrice. Elle est coréenne, elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans, elle n'a pas du tout été adoptée. Et il y a peut-être aussi un apport de cette actrice dans votre personnage, dans la façon d'appréhender le rôle de cette jeune femme qui revient dans son pays d'origine.
Un apport énorme. Alors il faut dire d'abord que l'apport numéro un, c'est celui d'une amie très proche à moi qui s'appelle Laure Badufle, avec qui j'ai étudié, qui a inspiré le personnage de Freddy de façon littérale. Et on s'est retrouvés avec Laure en 2011 lors de mon premier voyage en Corée du Sud, ensemble là-bas, et ensemble nous avons rencontré son père biologique coréen. Et c'est assister, c'est d'être le témoin de cette scène avec laquelle j'avais jamais imaginé que je serais témoin de ça, qui m'a bouleversé, et aussi de voir comment c'était très différent, mais à l'opposé de ce que j'aurais pu imaginer d'une telle scène, où j'aurais imaginé peut-être des espèces d'expressions larmoyantes de chacun, de la communication, et en fait c'était tellement sec, il y avait tellement de colère de la part de mon ami, que l'impossibilité de communiquer quand on a tellement de choses sur le cœur à vouloir partager, qui m'a marqué profondément. Donc c'est beaucoup inspiré de cette personne-là. Et puis, une fois que le scénario a été écrit, donc 3 ans d'écriture, le casting a été lancé. C'était assez compliqué de trouver la personne qui allait jouer ce rôle. Très compliqué, à mon avis. On est un peu naïf parfois quand on écrit. On jette sur le papier un peu tous ses fantasmes, toutes ses idées. Et quand on n'a pas assez d'expérience, peut-être qu'on ne pense pas à la practicabilité du truc et comment ensuite quelqu'un, une personne humaine, va jouer ça. Et à la fin, quand j'ai commencé le casting, je me suis dit, mais attends, il faudrait une jeune Isabelle Huppert franco-coréenne de 25 ans pour jouer ça. Est-ce que ça existe? Et donc je me suis mis sur le casting. On a ouvert un peu le casting avec la directrice de casting sur des non-professionnels. Et puis, le hasard et le miracle de la vie a mis sur mon chemin Park Jimin, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas en fait comédienne, n'a même jamais pensé à jouer la comédie, ce qui est hallucinant quand on la voit à l'écran. Elle est artiste plasticienne, elle n'est pas adoptée, elle est née en Corée, elle est arrivée en France à l'âge de 9 ans. Mais tellement de choses, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que quelqu'un avait entendu parler de mon film, on a discuté et m'a dit « il faut que tu la rencontres ». Tellement de choses dans sa propre vie, dans sa propre personnalité, dans sa trajectoire, dans sa façon d'avoir eu 1000 vies aussi comme Freddy, parlait avec le personnage, dialoguait sur quelque chose de très 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 vertigineux, comme si c'était un alter ego du personnage. Et puis quand on a, voilà, c'est une chose de ressembler à quelqu'un, c'est une autre de savoir jouer à la comédie. Donc quand on a fait le premier test casting quelques semaines après, elle m'a complètement bluffé dans sa capacité, qui je pense lui vient de son travail d'artiste. Elle fait des peintures et de la sculpture, des très très belles.
Qu'on voit dans le film ou pas du tout?
Qu'on voit de façon cachée dans son appartement dans la partie 2, on l'a mis au mur, quoi, de façon très subtile, et ça avait fait très, très plaisir à Jimin. Et donc Jimin qui, je pense, dans son art, met ses émotions brutes sur la toile, sur ses sculptures, a un accès à ça et va chercher quelque chose de très sincère. Et je pense que c'est ça qu'elle a mis face à la caméra tous les jours du tournage.
Alors Freddy, donc on l'a dit, le personnage est très spontané. La première séquence la montre d'ailleurs aborder la réceptionniste pour écouter la musique qu'elle entend dans son Walkman. Et la musique, c'est ça. Justement, c'est quoi cette musique des Vichoux ?
Alors on entend là un morceau classique, vintage, des années 70, rock'n'roll, coréen. Musique que j'ai découverte lors de mon premier voyage en Corée du Sud en 2011 et dont je suis tombé complètement amoureux. Notamment, je l'ai entendu dans ce bar qu'on voit dans le film, dans lequel Freddy improvise cette danse complètement dingue, qui est un vintage bar où il passe que des tubes des années 60-70. Et pour moi, c'est une invitation, en fait, c'est une invitation au voyage. C'est le mystère aussi, et en même temps la familiarité, c'est très étrange, et je retrouve ce que j'ai vécu quand je suis allé au Cambodge, et j'ai écouté aussi des chansons cambodgiennes des années 60, c'est que c'est une langue que vous ne connaissez pas, c'est l'étrangeté, l'altérité, et en même temps il y a ce cachet vintage, inspiré aussi des musiques occidentales, rock, qui tout de suite vous enveloppe dans un sentiment de familiarité, donc c'est ce truc de connaissance et d'ignorance, de distance et de proximité, en même temps, qui me semble être vraiment faire écho au sentiment du personnage quand elle arrive en Corée.
Vichou, donc on vient d'entendre ce hit, je ne sais pas si c'était un tube, mais en tout cas cette musique sud-coréenne des années 70. La musique, elle a une grande importance dans votre film. Il y a même une boucle, hein, en fait, puisque au début du film, Freddy parle de musique, de déchiffrage d'une partition, comme une métaphore aussi de la vie. Et ce n'est qu'au terme du film, et donc après ce voyage de 8 années, qu'elle se mettra au piano.
Oui, c'est un peu le monologue au début du film qui donne un peu la clé du comportement du personnage, un peu comme je l'avais décrit avant, qui était une façon de fronder, de provoquer un peu les choses et de, comme elle le dit en fait, quand t'as peur de quelque chose, ben fonce. Et c'est ce qu'elle fait littéralement après en se levant de table, parce que je pense qu'elle a un peu peur à ce moment-là de se dire « mais qu'est-ce que je fous en Corée du Sud ? Je suis parti sur un coup de tête, mais je connais rien et qu'est-ce... » Et de ça, du coup, elle a cette force-là, mais c'est presque pour moi de l'ordre de l'instinct de survie pour le personnage. C'est quelqu'un pour moi qui danse comme un funambule autour d'une espèce de précipice et d'abîme qui serait justement cette ignorance de son passé, un espèce de trou noir de pas connaître d'où elle vient. Et il faut constamment sauter, danser pour échapper à être tiré dans le trou noir.
La bande-son, elle donne évidemment le rythme au film et elle accompagne aussi les métamorphoses de cette femme qu'on va découvrir sur 8 ans. Donc Freddy, elle va vraiment se transformer physiquement. Nous, on assiste à ça en tant que spectateur, à cette évolution. Comment vous avez voulu le présenter ?
Sur la musique, c'est clair qu'il y a une évolution qui est qu'au début, elle est plus joyeuse, un peu comme la première partie, un peu plus innocente, et il y a beaucoup de tubes un peu coréens qui sont là. Et puis dans la deuxième partie, on retrouve une Freddy 2 ans plus tard, alors qu'on pensait qu'au terme de la première, elle plus jamais la Corée, c'est un peu ce qu'elle dit. Et puis finalement, on comprend en filigrane, parce qu'il y a une ellipse dans laquelle le spectateur doit un peu boucher les trous, qu'elle serait restée en Corée peut-être, qu'elle a vécu 2 ans, pardon, et qu'elle a un peu trouvé sa place, son nid, et cette place, Sony, au contraire des gens qu'elle fréquentait dans la première partie, c'est des gens très différents, du milieu un peu underground de Séoul, avec des artistes, des tatoueurs, un peu de drogue qui circule dans les soirées un peu en sous-sol. Et elle a trouvé un peu sa place, mais comme s'il fallait que ce soit une place un peu extrême pour qu'elle s'y sente un peu bien. Et la musique est au diapason de ça, puisque c'est une musique beaucoup plus underground aussi, un peu plus violente, un peu plus rêche, qui accompagne un peu cette vibration-là. Et puis dans la troisième partie, sans trop spoiler, on retrouve encore un personnage qui a changé, plus apaisé, du moins en apparence, c'est ce qu'elle dit, et c'est peut-être sans doute ce dont elle se convainc. Et c'est beaucoup plus silencieux, parce qu'il y a beaucoup plus de place au silence, mais sans doute aussi à l'écoute, ce qui est pour moi un truc important. Mais je dirais aussi que, pour finir sur la musique, c'est vrai que la musique dans le film, je l'ai pensée comme... cette chose qui permet de communiquer quand justement on est face à des situations où c'est impossible de communiquer à cause, comme on l'a dit, de la barrière de la langue, de la culture, de trop d'émotions mal digérées qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et la musique est parfois en soutien de Freddy quand elle a besoin d'avoir une bulle et de créer sa propre bulle. C'est cette scène où elle danse dans le Vintage Bar sur une musique incroyable de Christophe Musset et Jérémy Arcache, où elle, comme si elle inventait son propre espace, sa propre tempéralité pour échapper à tous ces gens qui essayent de lui dire quoi faire et qui elle est. Et puis parfois, vers la fin du film aussi, ce don de cette musique que son père lui écrit et qu'il joue sur un enregistrement pour elle, qui serait peut-être un peu le moment, le petit moment miraculeux et de grâce où à un moment, 7 ans plus tard, les personnages arrivent à s'écouter, à partager un moment à égalité, à juste distance.
Alors vous le disiez, hein, Freddy, elle échappe aux cases. Votre film également, on n'est pas du tout sur le récit gnangnan ou classique de l'adoption d'une jeune femme qui va être en paix avec elle-même en retrouvant ses parents biologiques. J'en veux pour preuve une séquence. Alors on est au début du film. Elle retrouve en fait très rapidement, presque facilement son père biologique. Et elle va déjeuner avec lui et donc toute la famille paternelle.
Il parle de ton abandon. Il dit qu'il regrette, mais il demande de ne pas les juger.
Dans l'USA, 어떻게 하는 게 제일 좋은 건가 고민하다가 그러기로 한 거야. 네 미래를 위해서, 연희를 위해서 결정한 거라고 얘기해줘요.
Il dit qu'ils ont pensé agir pour ton bien.
연희가 지 엄마는 만나봤대요.
Elle veut savoir si t'es en contact avec ta mère en Corée.
사랑해, 오빠. 연희가 뭐라 그래요?
Là, on n'est pas sûr que la traductrice traduise, ça ne la regarde pas, parce qu'il y a en plus des différences culturelles. Le personnage est quand même assez dur. Alors, c'est un repas où on sent plein de sentiments mêlés, de gêne, de colère, de culpabilité. On l'a entendu de la part de la famille paternelle. Ça, c'est le genre de séquence à laquelle vous avez assisté en 2011 avec votre ami.
Oui, exactement. J'ai presque même essayé de reproduire. Je ne sais pas aussi nombreux, en tout cas, il n'y a pas autant de gens, ce qui était un défi pour la mise en scène, mais pour moi en tout cas. Mais de recréer le sentiment très étrange, awkward, comme ils disent en anglais, je ne sais pas comment le dire en français, mais très glaçant et plein de différentes tonalités, y compris de l'humour, dans la façon dont effectivement la traductrice ne traduit pas toujours exactement, parce que ce que dit Freddy est parfois un peu trop dur, et donc elle le passe au tamis de la politesse coréenne en changeant un peu même le sens des mots. Juste une parenthèse, ça fait plaisir d'entendre comme ça la scène pour moi, parce que sans les images, et je veux vraiment rendre hommage au travail des personnes qui ont fait le son du film, le sound design, Vincent Villa et l'ingénieur du son Dirk Bombay, parce qu'il y a tellement un travail fin sur la texture des voix, et puis c'était très important pour moi ces différentes langues qu'on va entendre, puisqu'on entend du français, alternativement du français, de l'anglais, du coréen, de la traduction, parfois ça se chevauche, et il y a la musicalité comme ça de ces langues qui pour moi raconte un peu le cœur du film aussi, ça veut dire ces entrechoquements de cultures différentes qui passent par des choses un peu poétiques aussi, des acteurs d'origine différente, avec des natures de jeu différentes, parce que je mélange des acteurs très expérimentés, comme les acteurs qui jouent la famille biologique de Freddy, le père, la tante, ou alors Ludo de Langsin ou Johan Zimmer, qui sont des acteurs professionnels, avec des acteurs non professionnels, comme c'est le cas pour l'actrice principale ou d'autres. Et ces registres différents de langue, de son, de jeu, de visage, pour moi, c'est ça le film. C'est la réaction, comme si le film, c'était capter la réaction chimique de ces différentes hétérogénéités.
Retour à Séoul, David Chou. Moi, j'ai l'impression que la petite musique, tout au long du film, c'est une sorte de tristesse violente.
Je pense que le film essaye d'accueillir des choses paradoxales. Et que si on parle du personnage de Freddy, par exemple, elle peut paraître brutale, mais dans cette brutalité, il y a beaucoup de fragilité en même temps. C'est même pas un truc qui se succède, c'est à l'intérieur même. Et je suis gré à l'actrice Park Ji-min de... C'est la façon dont elle a joué ses émotions contradictoires à l'intérieur même du même plan, où on sent sa rage et derrière il y a autre chose, un besoin d'amour, quelque chose de profond, de triste. Et effectivement, il y a beaucoup de tristesse. Mais c'est justement, je crois, parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans le personnage et dans cette histoire, que c'était intéressant, important, pas intéressant, mais important de le raconter différemment et d'aller chercher la solarité, d'aller chercher la force, d'aller chercher l'énergie du personnage et du récit. pour conjurer cette tristesse un peu, ou en tout cas pour montrer comment on fait à partir de cette tristesse et comment on vit.
Alors c'est un récit sur l'identité, qui suis-je ? Mais c'est aussi toujours une autre question derrière, c'est où est ma place ?
Oui, je pense que c'est une question très universelle que beaucoup de gens se posent, notamment je pense aujourd'hui où il y a une grande mobilité, donc les gens ont la possibilité de vivre ailleurs et notamment d'aller, comme le fait Freddy et comme je l'ai fait moi-même, décider d'aller voir un peu aussi le pays des origines, ce qui n'était pas forcément permis pour les générations d'avant. Et donc plus on bouge, plus on se pose des questions en fait. Et parfois on voit les plus anciennes générations comme mes parents qui disent « Mais vous les jeunes, vous vous posez trop de questions, nous la vie était plus simple et on ne se posait pas tout le temps des questions existentielles. » Peut-être. En tout cas, on est là, on se les pose. Et donc du coup, c'est vrai que où est sa place ? Et c'est ça, je pense qu'elle se pose effectivement comme question, où est sa place ? Avec cette hypothèse de peut-être que c'est en Corée. Et moi, ça m'intéressait aussi parce que j'habite au Cambodge maintenant. J'ai été pendant un peu 13 ans ballotté entre la France et le Cambodge, à travailler par-ci, par-là. Et quelque chose auquel je me suis souvent confronté, c'est de rencontrer des personnes d'origine cambodgienne qui avaient mon profil, qui étaient nées en France, ou alors qui étaient nées en Australie ou au Canada, que sais-je, et qui allaient au Cambodge pour la première fois à l'âge de 25 ans ou 30 ans ou parfois 40 ans. Et quand on se parlait, ils me disaient « Mais tu sais, moi, je me suis jamais senti très bien dans mon pays d'origine, enfin dans mon pays de naissance. Je sais pas si... Voilà, j'ai pas trouvé ma place. Et je sais que là, maintenant, venir au Cambodge, je sais que je vais trouver ma place. Je sais qu'enfin, je vais être heureux, entre guillemets, quoi. Et à chaque fois, je dis rien parce que c'est pas mon rôle, quoi. Chacun doit faire l'expérience de sa propre vie. Mais dans ma tête, en tout cas, il y a une petite voix qui me dit « Merde, dans un an, je vais le retrouver ou je l'ai retrouvé en pièce. » Parce qu'évidemment, il y avait...
Il y a une projection sur oui, le pays des origines.
Oui, il y a une projection. Il y a aussi... Oui, en tout cas, c'est clair et net que ce voyage dans le pays des origines ne va pas tout d'un coup répondre à toutes les questions qu'on s'est toujours posées dans la vie et que les choses sont beaucoup plus compliquées et brutales que ça. Et qu'au contraire, ce voyage-là va sans doute ouvrir beaucoup plus de questions que d'apporter de réponses. Et tant mieux, quelque part. Mais en tout cas, il y a aussi une part de frustration, sans doute, de croire à ces fictions un peu trop facilement réconciliatrices. Et le film a été vraiment construit aussi sur cette idée-là, de montrer un chemin qui serait plus fidèle à la complexité de ces chemins-là.
Oui, parce qu'elle se métamorphose, enfin, on l'a déjà dit. À un moment, il y a une partie, on dirait presque Mata Hari.
Oui.
Il y a un côté, bon, elle va... C'est, oui. C'est très, très surprenant, effectivement. Elle va évoluer dans un monde de marchands d'armes. Ça paraît totalement... pas invraisemblable, parce qu'on sait très bien, et je ne vais pas dévoiler tous les ressorts de l'intrigue, mais elle a un petit côté, elle ne se ressemble pas. Elle ne ressemble pas en tout cas à son premier avatar.
Peut-être qu'elle saisit toutes les opportunités qui lui sont offertes, aussi qu'elle essaye, qu'elle teste.
Ouais, qu'elle joue, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a un côté jeu. Et d'ailleurs, à un moment, quelqu'un lui dit il t'appelle la James Bond Girl, donc ça montre un peu la part de la fiction. Mais ça, c'est des choses. C'est pas juste le délire de la fiction du scénariste qui écrit ça. Moi, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés dans la vie qui ont. S'ils sont rares, mais on les rencontre, qui ont cette capacité incroyable de se réinventer tous les deux ou trois ans à cycle régulier, d'effacer tout leur ancien cercle social et de s'inventer une nouvelle peau, comme si on pouvait changer d'identité comme on changeait de manteau. Et pour en revenir à la condition de Freddy, pour quelqu'un qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé cette première année et qui n'a aucun souvenir de ça, de, encore une fois, danser au-dessus de ce gouffre qui serait le trou noir de l'ignorance de son identité, c'est presque, encore une fois, un instinct de survie de s'inventer ailleurs. Et ouais.
Avec cette dureté, hein, quand elle dit à son petit ami qui a tout du genre idéal, qui est très attentionné, elle lui dit « je pourrais t'effacer comme ça d'un claquement de doigts ».
Je crois qu'il y a quelque chose de la relation du rapport à l'addiction dans le personnage qui tombe dans ce pays et qui finit par avoir une relation d'amour et de haine avec ce pays qu'elle rejette et qui retourne tout le temps. Et ce rapport d'addiction, on le retrouve aussi dans ses relations humaines, à la fois sentimentales, mais aussi amicales, où on a l'impression... Pour moi, c'est un personnage généreux quand même, Freddy. C'est quelqu'un qui tombe facilement amoureux des gens, même ne serait-ce qu'amicalement. C'est la première scène où il y a un crush amical comme ça, d'un échange de regards avec la jeune réceptionniste. C'est quelqu'un qui s'attache, c'est quelqu'un qui aime. Mais justement, dans cet absolu d'émotions et de sentiments, c'est quelqu'un qui très vite aussi se sépare des gens, peut-être avec ce truc, c'est mon interprétation, peut-être par la peur de l'abandon et le sentiment parfois que dans les relations très intenses, quand on sent que ça va peut-être finir, elle veut absolument précipiter la fin de cette relation parce que c'est insupportable que cette relation finisse. Et on peut peut-être lier ça à l'abandon originel du personnage, mais ça me semblait moi une espèce de matrice presque existentielle du personnage.
Alors, beaucoup d'émotions, on vient d'en parler, mais peut-être il faut souligner aussi que dans Retour à Séoul, il y a beaucoup d'humour, de drôlerie qui s'insère tout au milieu de ce chaos de sentiments.
Oui, c'était vraiment une volonté de l'histoire, qu'on soit dans un mélange de tonalités, qu'on sache pas trop, toujours, que le spectateur ne sache pas trop exactement où il se trouve tout le temps, est-ce qu'il doit rire ou pleurer, par jeu avec le spectateur, mais aussi, encore une fois, parce que je pense que la vie est comme ça, ça veut dire que c'est des situations très tragiques, très lourdes, mais quand on les vit, l'absurde est aussi beaucoup là, dans le choc culturel, dans la façon dont on n'arrive pas à se comprendre, et ça crée des situations parfois ubuesques. Il y a cette espèce de... la fonction du traducteur qui est tout le temps là entre les deux à se retrouver là. Le film, c'est presque un tribut, aussi un hommage aux traducteurs qui doivent manier de la matière humaine et essayent de faire de leur mieux pour concilier les choses, pour être vraiment le point de communication entre les cultures. Et puis, bon, je pensais à un film aussi parfois, à l'écriture du film, c'était Tony Erdmann de Marraine à deux. Pour moi, c'est un modèle de film qui change constamment de tonalité, et il y a des scènes où on se rappelle, au Festival de Cannes, tout le monde était à pleurer de rire dans la fameuse scène comique du film, et en même temps ça se finit comme un mélodrame, et mon film aussi, il y a une grande part de mélodrame aussi, donc je trouve ça difficile à écrire et à tourner, je suis pas sûr de l'avoir réussi, mais c'est hyper intéressant de jouer avec ces différents registres et de provoquer un peu le spectateur de ce qu'il sait jamais exactement où est-ce qu'il s'assoit, quoi.
D'un point de vue esthétique, le style du film presque change aussi à chaque incarnation, enfin à chaque avatar, si je puis parler ainsi, de Freddy.
Ouais, c'était l'idée. Je voulais être joueur. On a parlé déjà un peu du jeu, de la façon dont elle change d'identité. Quand je me posais la question de la mise en scène et du style du film, parfois on stresse un peu en se disant « mais il y a tous les possibles, où est-ce que je vais ?» Et je dis « bah attends, arrête de te prendre la tête, sois joueur ». Et invente un peu ce que tu veux dans la mise en scène, scène après scène, et notamment en voyant un peu des blocs de parties un peu différents. Donc la première partie, qui dure quand même une heure, c'est la plus grosse partie, les plans sont plutôt statiques, on sent la vibration du personnage à l'intérieur de cadres un peu fixes. C'est la jeunesse de Freddy qui se cogne un peu à ces espèces de frames, de cadres comme ça qu'on veut lui imposer, notamment là dans le cadre de la Corée, de la famille coréenne, de l'identité, etc. Et puis dans la partie 2, comme on l'a dit, elle trouve un peu sa place dans cette deuxième partie et ça vibre beaucoup plus. Et en termes de look, je dirais que la première partie, je pensais vachement au film des frères Safdie. Donc il y a Good Time, par exemple, avec Robert Pattinson, même si les gens qui voient le film penseront jamais peut-être au cinéma des frères Safdie, qui paraît très loin, mais avec cette vibration un peu joyeuse et très saturée, avec les peaux des personnages qui sont un peu vertes, rouge, rose, des choses qu'on fait jamais dans le cinéma classique, notamment américain, où il faut que tout soit très beau, avec des belles peaux bien maquillées orange. Mais là, il y avait quelque chose d'un peu, c'est pas de mauvais goût, mais en tout cas de très vivant, d'aller chercher le sang dans les joues, parce que c'est ça qu'on va chercher, la vibration vraiment de la peau et du sang dans les joues. Et dans la deuxième partie, on est parti un peu loin avec mon équipe, avec le chef-op, le chef électro, la déco. On parlait de David Fincher, par exemple, comme Girls of the Dragon Tattoo, Millennium. On parlait de Matrix, dès qu'on a trouvé cette espèce de costume, enfin de veste en cuir qu'elle a, et ce tatouage, ce salon de tatouage un peu vert et noir, on a pensé à Matrix, je pensais à Millennium Mambo, Douché Ocean, donc des choses beaucoup plus stylisées, puis il y a la nuit aussi qui est là.
Oui, c'est ça, on est dans le Séoul nocturne et interlope.
Exactement, et c'était excitant de filmer ça, d'utiliser ces références très éloignées, parce que ça parle encore une fois de cette personne qui se recrée des identités, et le film se métamorphose dans sa forme et dans ses styles et dans ses influences à mesure que le personnage lui-même se métamorphose.
Mais le style, le décor aussi permet d'instiller une temporalité, parce qu'on peut être dans le Séoul nocturne interlope, mais on peut être aussi au bord de la mer avec le père, dans peut-être une Corée plus intemporelle, donc...
Ouais, absolument.
Tout coexiste, quoi.
Tout coexiste. Et puis, il y avait aussi le désir de ne pas faire un film carte postale aussi, parce qu'on enfin un film qui s'appelle Retour à Séoul, sur une fille qui débarque un peu en mode backpacker en Corée du Sud. Évidemment que, et peut-être le spectateur veut ça, il veut voir les belles images de Séoul, mais c'était un danger, de toute façon, parce que l'expérience vraiment des gens est un peu différente de ces trucs de carte postale. Donc, très vite, il y avait cette intuition que le film était aussi un film d'intérieur. C'est à la fois mon expérience de la Corée du Sud. Quand on y va, on se retrouve très vite dans un film de Hong Sang-soo, des beuveries interminables dans des bars et des restos. à boire du soju, plus que du café. mais que voilà, métaphoriquement, c'est aussi le voyage intérieur de cette fille, encore une fois un peu avec des trucs claustrophobiques où elle est un peu enfermée dans des espaces et elle qui se débat dans ces espaces et qui renverse la table. Et ça m'a beaucoup plu de filmer ces intérieurs coréens et d'essayer d'y capter quelque chose de la vérité des lieux, mais un truc aussi différent et déplacer un peu l'image un peu de carte postale qu'on peut avoir en tête.
Le film, donc Retour à Séoul des Vichoux, il a été projeté en première mondiale à Cannes, mais vous l'avez présenté aussi cette année au Festival de Busan, oui, en Corée du Sud. Est-ce que, ouais, du coup, les réactions ont été particulières, différentes, intéressantes?
Ouais, c'était un peu la boucle bouclée, puisque c'était mon premier voyage en 2011, pendant lequel j'avais rencontré le père de mon amie avec elle. Quand j'y suis allé, elle était avec moi aussi. J'étais avec la comédienne Jimin Park, mais aussi avec Laure Badufle, mon amie qui a inspiré le film, donc c'était très spécial, très émouvant. Le public coréen a adoré le film. Alors évidemment, moi, j'étais un peu en stress de me dire, c'est pas mon pays, donc on a toujours peur de pas être authentique, de se faire critiquer sur des choses de justesse. Je pense qu'on a bien bossé sur ce côté-là, puisque on verra après quand il sortira en salle, mais tous les retours que j'ai eus étaient très positifs sur la justesse. Mais surtout, il disait un truc qui revenait beaucoup, il disait, mais c'est bizarre ton film. Tout est coréen, les dialogues sont coréens, les acteurs jouent très justement en coréen, les lieux sont des lieux qu'on connaît, qui sont coréens, mais ça ressemble même pas du tout à un film coréen. Et ils savent pas expliquer d'où ça vient. Et moi, je pense que ça vient du personnage, aussi de la mise en scène, mais en tout cas, c'était très intéressant. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que j'avais identifié comme danger potentiel du film d'essayer de singer le cinéma coréen. Moi, je suis un grand fan de Hong Sang-soo, de Lee Chang-dong, de Bong Joon-ho. Et je pense que si j'avais commencé à essayer de singer leur cinéma, ça aurait été la catastrophe parce que c'est pas le mien. Et donc voilà.
Et il va sortir en salle en Corée du Sud ?
Oui, il sort en salle en avril ou en mai, je crois. J'y retournerai, je suis très excité de savoir. Après, le sujet de l'adoption coréenne, c'est un sujet national, au sens où c'est quelque chose de...
Il y a eu tellement d'enfants.
Ouais, presque 200 000 bébés qui ont été envoyés entre les années 50 et la fin des années 90, à cause de la guerre de Corée, à cause du patriarcat coréen aussi, qui faisait que le statut de femme célibataire était quelque chose d'absolument impensable et impossible là-bas. Et la facilitation aussi, à un moment, avec le gouvernement américain, le gouvernement coréen, ont collaboré pour rendre ça possible, sous couvert de bonnes intentions, comme toujours, où des parents voulaient adopter, aider les enfants pauvres coréens, et les parents coréens se sont dit, mais leur vie sera meilleure ailleurs, c'est exactement comme ça que se justifie la famille de Freddy, mais ça a pris des conséquences un peu dramatiques, où c'était presque une industrialisation, comme ça, de l'adoption, et donc c'est une histoire très connue en Corée, douloureuse, ils n'ont pas forcément envie d'un nouveau film sur ça, et en même temps, quand j'ai montré le film, quand j'ai parlé aux journalistes, ils étaient assez fascinés par le fait que le film racontait vraiment une autre expérience, l'expérience de l'adopter, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête des personnes qui ont été abandonnées et qui reviennent. Et bon, je suis très très excité à l'idée de montrer le film là-bas.
Des Vichoux, merci. Donc en attendant la sortie en Corée du Sud, Retour à Séoul sort en salle en France mercredi prochain. L'émission se poursuit à venir, le journal du cinéma, juste après cette pause musicale, cette nouveauté choisie par notre réalisatrice Fanny Renard, et c'est un titre de Daniel Ponder.
Listen, darling, every word I say, I left you long before today. My sweet darling, even try to sway, love is lost, and I must walk away. I know I've said it once before, but now I feel it more and more. I know I've said it once before, but now I feel it more and more. Only the lonely stay when love's no longer safe. The fire doesn't burn, they hold on, some else run.
C'est le moment de feuilleter le journal du cinéma avec vous, Isabelle. Et tout d'abord, la sélection du FESPACO. Ça y est, on connaît la sélection du Festival de cinéma panafricain qui se tiendra à Ouagadougou du 25 février au 4 mars.
Et oui, 1200 films ont été reçus par le comité panafricain de sélection, signe d'une belle vitalité et de l'attractivité de cette 28e édition du FESPACO. 15 films sont en compétition pour l'étalon d'or de Yenanga. À noter dans cette compétition le retour de la République dominicaine et de l'Angola, beaucoup de premières mondiales. Le Togo sera le pays invité d'honneur. Dora Bouchoucha, productrice tunisienne, a été choisie pour être la présidente du jury des longs métrages. Il y a d'ailleurs 2 films tunisiens en compétition.
2 disparitions cette semaine, Isabelle, qui endeuille le monde du 7e art. Et tout d'abord, la star italienne Gina Lollobrigida, qui s'est éteinte à l'âge de 95 ans.
Véritable sex-symbole des années 50, Gina Lollobrigida partagea la vedette avec les plus grands acteurs de son époque, Frank Sinatra, Sean Connery ou encore Humphrey Bogart. Elle avait été révélée en France dans Fanfan la Tulipe, un film fantaisiste de cap et d'épée du réalisateur Christian Jacques, un film très populaire qui lui avait apporté une belle notoriété aux côtés de Gérard Philippe et qui avait lancé sa carrière l'année suivante, en 1953. Elle brillait dans Pain, amour et fantaisie du réalisateur italien Luigi Comencini et faisait sa première apparition à Hollywood dans Plus fort que le diable, une joyeuse parodie de films d'aventure de John Huston.
Et parmi les grands succès de Gina Lollobrigida, il y a bien sûr le rôle d'Esmeralda.
Dans Notre-Dame de Paris, inoubliable bohémienne en robe rouge, poignard ceinturé aux hanches, un film de Jean Delannoy avec Anthony Quinn en Quasimodo. On est en 1956, 30 ans après, fête chevalier des arts et lettres en France. Voici ce qu'elle en disait, Gina Lollobrigida.
Ma carrière a commencé en France, internationalement, avec Fanfan la Tulipe. Et je dois vraiment à la France comme vedette internationale. Après, j'ai fait beaucoup de films, mais ce que je me rappelle très bien sont Notre-Dame de Paris. Même dans mon dernier voyage en Chine, je suis tellement populaire qu'on ne m'appelle pas Gina Lollobrigida, mais Esmeralda.
C'était donc Gina Lollobrigida. Et puis cette semaine, on a aussi appris le décès du réalisateur Paul Vecchiali.
Oui, un compagnon de la nouvelle vague, un cinéaste chercheur qui aura réalisé plus d'une cinquantaine de films, dont 30 longs métrages. Il avait 92 ans.
Isabelle, après 4 ans d'absence, les films Marvel vont faire leur retour dans les cinémas en Chine pour le plus grand bonheur des fans chinois de la franchise.
Oui, les films de super-héros Marvel sont immensément populaires en Chine. Ils étaient absents des salles obscures depuis la sortie en juillet 2019 de Spider-Man, la faute à l'épidémie de Covid. Marvel Studios, propriété du géant américain Disney, a annoncé mardi la sortie en Chine, donc le 7 février, de Black Panther, Wakanda Forever. Elle sera suivie 10 jours plus tard de la dernière production, Ant-Man et la guêpe, Quantumania.
À Paris, les Prix Lumière ont lancé la saison des récompenses cinématographiques. Alors, je rappelle que les Prix Lumière sont décernés par les correspondants de la presse internationale issus de 36 pays. Et Isabelle, le gagnant est...
La nuit du 12 de Dominique Moll. Alors j'avoue avoir un petit faible pour ce film sorti en 2022. Donc il est sacré meilleur film et meilleur scénario. Il a partagé les honneurs avec Pacifiction, Tourment sur les îles d'Albert Serra, qui remporte 3 lumières dans les catégories mise en scène, image et meilleur acteur pour Benoît Magimel. Dans la catégorie meilleure actrice, Virginie Efira l'emporte pour sa performance dans Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski. Et puis Alice Diop reçoit le prix Lumière du meilleur documentaire pour Nous, un voyage en RER à travers la banlieue parisienne qui donne des visages à des lieux sans visage.
Et voilà un film qui a décroché la plus grande récompense, cette fois du Festival d'animation d'Annecy. C'est Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Huguetto. Le film sort en salle mercredi prochain. Alors ce titre, hein, Interdit aux chiens et aux Italiens, résume le climat, l'accueil donc parfois réservé aux immigrés italiens venus s'installer en France au début du XXe siècle. Alain Huguetto a choisi l'animation, c'est son moyen d'expression, avec l'usage de petites figurines sculptées sculptée de 23 cm de haut pour raconter sur près d'un siècle l'histoire de sa famille paternelle venue du Piémont, donc les Ughetto. C'est un travail artisanal qui relie le réalisateur au savoir-faire manuel de ses ancêtres et c'est ce qu'il vous a confié, Isabelle, à la Ughetto.
Ce que je voulais, c'est comment se transmet le savoir de mère en main. Et donc mon grand-père, il fabriquait ses outils, des râteaux, il travaillait du bois, et tout ce savoir qu'il avait dans les mains, il a transmis à mon père. Et mon père était un grand bricoleur, il arrivait avec un tambour de machine à laver, il faisait un filtre à sable pour sa piscine qu'il avait construit lui-même. Et ce savoir qu'il avait dans ses mains, il me l'a transmis, et moi c'est vrai que j'adore le bricolage. Donc j'ai écrit un scénario qui raconte leur vie, et je me suis fait aider par des centaines de petites mains qui sont venues m'aider à transformer ce projet en film.
Parce que ces travailleurs italiens, ils ont quand même beaucoup construit la France, des ponts, des viaducs, des routes. Et d'une certaine manière, ce travail de la main, c'est ce dont vous avez hérité.
Ben oui, c'est important pour moi de rendre hommage à ces gens qui ont traversé des guerres, qui ont eu des épidémies, mais qui sont toujours restés debout, droits, dignes, fiers. C'est un exemple pour moi.
Et de leur rendre hommage, justement, avec ces petites figurines sculptées. À l'intérieur de vos décors, il y a plein d'éléments que vous êtes allés chercher, peut-être, dans la région d'origine.
Oui, quand, en étant en Italie, en fait, il n'y avait plus rien d'eux. En fait, tout était en ruine. Leur métier de paysan, il n'y avait plus rien. Les toits étaient tombés. Et comme il n'y avait plus rien, je me dis, ben, ramasse ce qu'il y a. Là. Alors, du coup, j'ai ramassé le charbon de bois, des châtaignes, des citrouilles, ce qui faisait leur quotidien, quoi. Et dans mon atelier, j'ai reconstruit ça. Alors, je me dis, tiens, là, maintenant, ils peuvent revivre dans ce décor-là, où les arbres sont des brocolis. Le charbon de bois fait montagne, les sucres font barrage.
Interdit aux chiens et aux Italiens, Alain Ughetto, c'est un dialogue entre un petit-fils et sa grand-mère, Cesira. Il a fallu du temps pour aller la chercher, cette mémoire familiale.
Oui, il a fallu 9 ans. Oui. C'est pas que c'était caché, mais c'est l'Italie, ils n'en parlaient pas. Mon père, il était naturalisé français, il avait 17 ans. Il parlait pas italien, mais par contre, quand on lui parlait d'Italie, il avait des yeux brillaient, en fait. Et moi, l'Italie, ben, c'est des options de fac, en fait. Hein. J'allais vers le cinéma italien, la comédie italienne, la littérature italienne, qui est magnifique. Mais avec le film, d'un coup, je me disais, mais il y a un lien, là. Moi, je suis un quasi fils de migrant. Et donc, voilà, l'Italie est devenue importante. Et dans le film, je me dis, rends hommage aussi à des gens comme Scola, ou comme Affreux Sales Émissions, où tu racontes une histoire abominable, mais tu as besoin d'être pesant. Ou... Reste avec de l'humour, l'élégance de l'humour, c'est ça qu'il faut. C'est pas la peine d'être trop plombant, en fait. Mon père, parmi, disait « Mais avec moi, vous n'avez jamais eu faim ». Et ça voulait dire que lui, de son côté, il avait dû sûrement avoir faim. Quoi.
Cette mémoire manquante, disons ce récit qui ne vous a pas été transmis, il a fallu aller fouiller.
Ben oui, parce que c'était... Comment dire, c'est... Mon père, il ne voulait jamais parler de la guerre, par exemple. J'avais organisé un repas avec une copine et en lui disant, moi, j'ai le branché sur la guerre, ce serait bien que tu poses une question. Toi, il te parlera à moi, jamais il ne me parlera à moi. Quoi. Et donc, effectivement, il a parlé de la guerre, mais j'ai culpabilisé après parce que c'est hyper dur. Il a remué des souvenirs. La difficulté, c'est ça, c'est d'approcher doucement ces moments et de les transformer. Quoi.
Finalement, c'est l'histoire, Alain Ughetto, de tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'immigrés. C'est une mémoire qui n'a jamais été racontée.
Non, ça ne se racontait pas. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand elle est arrivée, elle était italienne, elle est arrivée en France, elle voulait être plus française que les Françaises. Donc elle ne parlait jamais italien. Mais par contre, sa pratique culinaire, c'était polenta et les gnocchis. Ses habits, c'est toujours c'est la même, quoi, toujours en noir. Les chignons, le gros chignon dans les cheveux. Et donc, du coup, nous, on a occulté cette partie italienne. Quoi.
Et comment ça s'explique, ça, que cette mémoire ne se transmette pas?
Ben, parce que c'est à l'époque, il y avait beaucoup de non-dits, en fait. Ma mère, elle disait, mais nous, à l'époque, on ne posait pas des questions, nos parents. Non. Et je dis, mais nous, on pose des questions. Il y a un changement de mentalité, en fait. Le rapport aux gamins, c'est plus la même chose, quoi.
Alors, Alain Ughetto, dans Interdit aux chiens et aux Italiens, vous les avez ressuscités, Cesira et Luigi, vos grands-parents, en fait. Ils sont poussés par la nécessité et ils traversent bien des frontières et bien des épreuves. Qui étaient-ils, tous les deux?
Ah, c'est une histoire d'amour incroyable. Hein. Ils se sont connus et ils ont vécu toute leur vie ensemble, en fait. Et de nos jours, c'est remarquable.
Alors, vous m'avez dit que dans votre sac, là, vous portiez avec vous Cesira et Luigi.
Oui.
Racontez-moi ça.
Ça fait partie de l'histoire. Et donc, par exemple, dans le film, ils rêvent de la América. Parce que les anciens leur avaient raconté que là-bas, les dollars poussaient sous les arbres et qu'il suffisait de les ramasser, quoi. Et donc, ils se sont dit, on va aller en Amérique, au moins, on va gagner des sous. Et en fait, quand le bateau est parti, il a coulé et toutes leurs affaires étaient dedans. Ils ont tout perdu, quoi. Et donc, ils sont obligés de rester en France. Et quand on m'a invité aux États-Unis, ben, je suis parti avec les deux marionnettes de Luigi et Cesira et je les ai photographiées un peu partout. Central Park, dans toutes les avenues de New York.
Vous leur avez fait faire le voyage qu'ils n'avaient jamais pu faire.
Voilà, c'est ça, oui.
Et vous continuez aujourd'hui là, pour la tournée de ce film ?
Oui, oui. Tant que le film n'est pas sorti, je l'ai gardé avec moi, oui.
Voilà, Alain Guietto, le réalisateur du film d'animation « Interdit aux chiens et aux Italiens » qui sera en salle mercredi prochain. On achève cette émission au Maroc et plus précisément à Rabat où le premier film marocain consacré au rythme amazigh est sorti en première mondiale le 12 janvier. Il s'agit de Sound of Berberia du réalisateur Tariq El Idrissi. C'est un road movie musical qui nous fait traverser les frontières à la découverte de Tamazra, la terre amazigh, c'est-à-dire le monde berbère, qui est un espace géographique s'étendant de la Mauritanie jusqu'à Siwa en Égypte, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et aussi, on le sait peu, par le nord du Mali. Sound of Berberia fait le récit du voyage de deux musiciens marocains qui parcourent Tamazra à la recherche du véritable son berbère. On retrouve à Rabat notre correspondante Nadia Ben Mahfoud.
Sound of Berberia nous plonge dans l'Afrique du Nord du début des années 2010. On suit la quête musicale de Kino et Fouad, l'un guitariste et l'autre batteur, dans des pays secoués par des conflits religieux, politiques et ethniques, mais aussi par le début des printemps arabes. Sound of Berberia devait initialement être un documentaire qui aurait retracé un voyage. Le réalisateur Tariq El Idrissi.
Au début, quand j'avais cette idée, c'est de moi de prendre ma petite caméra à l'époque. Et mon Kino avec sa guitare et on va filmer un documentaire. Commencer des îles Canaries, le Maroc, le Mali. Et à l'époque, on pouvait voyager jusqu'à Mali. Il y avait là-bas un festival au nord du Mali, à côté de Timbuktu. Tout le monde allait là-bas. Il n'y avait pas de problème. Mais après, ça commençait les problèmes. Alors mon rêve, il est en train de disparaître. Sans vouloir, j'ai commencé à écrire une histoire de fiction, d'un rêve, d'un voyage que j'ai jamais pu faire.
Le projet de ce film a débuté en 2013, 10 ans de travail pour un objectif, placer les Amazirs sur une carte. Tariq El Idrissi.
Moi je suis Réfin, je suis Amazir, et quand j'étais petit à l'école, il y avait comme une espèce de lavage de cerveau, de l'état, de l'éducation, et c'est comme ils voulaient faire disparaître les Amazirs, non ? Moi, ce que je voulais, c'est mettre les berbères dans les cartes parce que tout le monde tapait l'arabe et toujours il faut expliquer non, c'est pas grave.
Les 8 millions de berbères au Maroc ont longtemps été encouragés à mettre leur identité sous le tapis. Il a fallu attendre l'arrivée de Mohamed VI sur le trône du royaume chérifien pour que cette communauté autochtone puisse revendiquer sa culture, ses langues et son identité musicale. Mohamed Soltana, qui joue le rôle de Fouad, est originaire de la région amazigh du Rif. Ce voyage mène les personnages jusqu'au nord du Mali, une zone en proie à des violences de groupes armés. À l'époque du film, Al-Qaïda côtoyait encore les indépendantistes Touareg de l'Azawad, une zone hors du contrôle de l'État malien. Malgré les risques, les deux hommes se rendent sur place pour jouer avec les bluesmen du désert. Ashraf Kino, musicien et superviseur de la bande son du film.
Le blues, c'est une musique pentatonique. C'est pas seulement une musique américaine, c'est une musique africaine. Les berbères, nous sommes des Africains, alors de plus de désert.
Finalement, le son est le moyen pour les protagonistes de Sound of Berberia de dépasser les frontières, les conflits. C'est la voie vers la liberté, une notion fondamentale pour les Amazirs. Amazir veut dire l'homme libre. Nadia Ben Mahfoud, Rabat, RFI.
Et ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde au micro Isabelle Chenu
et Sophie Torlotin à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Léonore Serrail et Annabelle Langrone pour parler du film Un petit frère. D'ici là, bonne semaine à tous. الله واهي سكنة بجرد واهي سسلة رنسي بس تلا ترى